VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du mercredi 1er avril 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici le titre. Au Congo-Brazzaville, une vingtaine de personnes sont mortes électrocutées. La foudre a frappé une ligne à haute tension à Kintele, dans la banlieue de Brazzaville. Opération d'envergure de l'armée tchadienne contre Boko Haram. L'opération Colère de Boma s'étend au Niger et au Nigeria. Comme chaque jour, nous ferons le point sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 en Afrique, aux États-Unis et dans le reste du monde. La maladie a tué plus de 43 000 personnes. Également, dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Yacouba Traoré reviendra sur la mort de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Mais tout d'abord, le journal. Au Congo-Brazzaville, une vingtaine de personnes sont mortes électrocutées mercredi après une décharge de foudre qui a frappé une ligne à haute tension à Kintele, dans la banlieue de Brazzaville. J'ai pu envoyer une équipe qui m'a rapporté que 7 cadavres ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Talangay et 13 autres à la morgue municipale du CHU. Cela fait donc 20 morts, a déclaré Stella Mensa Sassou Nguesso, maire de Kintele et fille du président congolais. La foudre a sectionné deux câbles d'une ligne haute tension, a ajouté un témoin. Le Tchad lance une nouvelle offensive militaire contre Boko Haram. Des soldats tchadiens ont été déployés au Niger et au Nigeria pour lutter contre le groupe djihadiste. Le point avec Claire Morin-Jubourg.
Nous avons l'accord des deux autres pays, le Niger et le Nigeria, et nous avons présentement des hommes dans tous ces pays, a affirmé le général Mahamat Abali Salah, ministre tchadien de la Défense. Notre objectif est de nettoyer toute la zone insulaire, a affirmé le ministre, qui évoque un déploiement de 5 secteurs, sans préciser le nombre d'hommes mobilisés. Lundi 23 mars, une centaine de soldats tchadiens sont morts suite à une attaque de Boko Haram sur une base militaire sur la presqu'île de Bohoma. Cette nouvelle offensive, baptisée Colère de Bohoma, devrait consister en une opération terrestre, aérienne et fluviale. 2 des 5 départements de la province du Lac ont été déclarés zones de guerre. Les pays de la région ont déjà mis en place depuis 2015 la force multinationale mixte, une coalition régionale engagée autour du lac Tchad. Cette immense étendue d'eau et de marécages est parsemée d'une multitude d'îles qui sont devenues des repères pour Boko Haram.
L'Afrique subsaharienne se rue sur la chloroquine pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus. L'OMS a appelé à plusieurs reprises à la prudence. Eric Manirakiza.
Au Burkina Faso, au Cameroun, en Afrique du Sud par exemple, les gouvernements ont rapidement autorisé les structures hospitalières à traiter les malades avec de la chloroquine. Au Sénégal, près de la moitié des personnes contaminées se sont déjà vues prescrire l'hydroxychloroquine. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a déclaré la semaine dernière qu'il était urgent de produire la chloroquine en quantité industrielle. En Afrique du Sud, l'une des plus grosses entreprises pharmaceutiques a promis de donner 500 000 tablettes aux autorités sanitaires. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Luanda, en Angola, les habitants se sont rués dans les pharmacies. Le même phénomène a été observé au Malawi. Dans les pharmacies de Yaoundé, il y a rupture de stock. À Libreville, au Gabon, les files d'attente s'allongent devant les pharmacies. Le Maroc a réquisitionné tous ses stocks. Les experts s'inquiètent de cette frénésie et redoutent les effets d'une automédication. Au Nigeria, des patients empoisonnés à la chloroquine ont été admis la semaine dernière dans 2 hôpitaux de Lagos. Ce mardi, les autorités camerounaises ont annoncé que de la fausse chloroquine est en circulation dans le pays et a été retrouvée dans certains centres de santé.
Le chef de l'État du Botswana, Mokwetsi Masisi, placé en quarantaine fin mars à la suite d'un voyage officiel en Namibie, a reçu ce mercredi l'autorisation d'en sortir après avoir été testé négatif au nouveau coronavirus. C'est ce qu'a annoncé la présidence. Mokwetsi Masisi avait été placé à l'isolement dès son retour de Namibie, où il avait assisté le 21 mars à la prestation de serment de son homologue namibien Hage Geingob. plusieurs centaines de personnes, dont les présidents zimbabwéens Emmerson Mnangagwa et angolais João Lourenço, avaient assisté à la cérémonie au palais présidentiel de Windhoek. À ce jour, le Botswana a enregistré 4 cas confirmés de COVID-19, dont un décès.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, toujours dominée par la pandémie du COVID-19. En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec près de 190 000 contaminations au COVID-19, dont plus de 4 000 décès. L'armée va construire des centaines d'hôpitaux temporaires pour faire face à la crise du coronavirus. Nathalie Bache.
Le président Donald Trump a averti que les États-Unis devaient se préparer pour 2 semaines très douloureuses. La Maison-Blanche projette que la pandémie pourrait faire entre 100 000 et 240 000 victimes. Les stocks médicaux d'urgence du pays sont presque épuisés. La Russie a envoyé un avion d'aide humanitaire aux États-Unis. L'Antonov transporte des masques et de l'équipement médical. Donald Trump a exhorté la Floride à ouvrir un port aux navires de croisière néerlandais Zaandam, coincé en mer avec plusieurs malades à bord, exhortant le gouverneur à abandonner son opposition. Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'évacuer le porte-avions USS Roosevelt, à bord duquel plus de 70 marins ont été testés positifs. L'armée apporte des fournitures et une assistance médicale vers le transporteur amarré à Guam. Aucun marin n'est gravement malade.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 43 000 morts et plus de 870 000 cas dans le monde depuis son apparition en décembre dernier en Chine, selon un bilan établi ce mercredi. Un nouveau point sur les dernières évolutions du COVID-19 à travers la planète avec Jacques Aristide.
Plus de 865 970 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 186 pays et territoires. Ces 4 derniers mois, au moins 172 500 cas sont aujourd'hui considérés comme guéris. L'Italie, pays le plus touché avec 12 428 morts, l'Espagne, les États-Unis et la France dépassent le nombre de décès en Chine continentale, 3 312 communiqués par Pékin. L'Iran s'en approche avec 3 036 décès. Cas jugé rare, un adolescent britannique de 13 ans est mort après avoir été testé positif au coronavirus. Sa famille affirme qu'il n'avait pas de problème de santé sous-jacent. Pour le secrétaire général de l'ONU, la pandémie est la pire crise mondiale depuis la Seconde Guerre. Antonio Guterres craint de voir davantage de conflits dans le monde. L'ONU et l'Organisation mondiale du commerce estiment qu'il existe un risque de pénurie alimentaire à cause des perturbations liées au COVID-19 dans le commerce international et les chaînes d'approvisionnement. Elle s'inquiète notamment du ralentissement de la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et alimentaire qui bloque de nombreuses agricultures occidentales et des retards aux frontières pour les containers qui entraînent un gâchis de produits périssables.
Alors que la pandémie du COVID-19 a fait plus de 3000 morts en Iran, l'un des pays les plus touchés au monde, son président accuse Washington d'avoir raté, selon lui, une occasion historique pour lever les sanctions économiques. Ils n'ont pas appris leur leçon, même en ces temps difficiles dans le monde, a déclaré Hassan Rouhani lors d'une réunion de son gouvernement retransmise à la télévision. Les relations entre Washington et Téhéran se sont davantage dégradées depuis la sortie de Donald Trump en 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien et l'imposition de sanctions économiques contre ce pays. L'OTAN doit éviter que la crise sanitaire provoquée par le COVID-19 ne mette en péril la sécurité des alliés, a averti ce mercredi son secrétaire général Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse virtuelle à la veille d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. Il a indiqué que les menaces n'ont pas disparu comme par miracle. Les sujets de discussion sont nombreux car l'OTAN doit discuter de la manière de poursuivre ses missions en Afghanistan et en Irak après le désengagement des États-Unis. Les actions russes en Europe seront également au menu. Environ 8,3 millions de personnes risquent de plonger dans la pauvreté dans le monde arabe en raison des conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'a affirmé mercredi la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale. À ce chiffre s'ajoutent 2 millions de personnes qui souffriront de malnutrition, a estimé la CSAO qui a publié un rapport sur l'impact du nouveau coronavirus. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Le Ghana a réduit sa prévision de croissance du PIB pour 2020 à 1,5% contre 6,8% en raison du coronavirus. C'est la pire performance de son économie en près de 4 décennies. Le ministre des Finances, Ken Ofori Atta, cité par Reuters, soutient que ce chiffre de 1,5% pourrait encore baisser si le pays se bloquait complètement pour freiner la propagation du virus. Ces dernières années, le Ghana était l'une des 10 économies les plus dynamiques d'Afrique. La Zambie recherche des conseillers financiers pour assurer la soutenabilité de sa dette et gérer tous ses prêts venant à échéance l'année prochaine et au-delà, a confié le ministre des Finances, Boualie Ngandou. La dette extérieure zambienne est passée à 11,2 milliards de dollars contre 10,23 milliards de dollars fin juin 2019. Avant le coronavirus, qui a eu un impact majeur sur la demande des matières premières de la Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique, le pays était aux prises avec une dette publique croissante. Pour terminer, la Banque mondiale a approuvé un prêt à l'éducation de 500 millions de dollars en faveur de la Tanzanie après des années de retard en raison d'une loi qui interdisait aux élèves enceintes l'accès aux écoles publiques. Cette interdiction avait suscité des critiques des donateurs, dont la Banque mondiale, le plus grand prêteur extérieur de la Tanzanie. Les conditions du prêt, qui visent à améliorer l'accès à l'école secondaire, permettent aux élèves enceintes qui ont été forcées d'abandonner l'école de terminer leurs études grâce à des programmes alternatifs d'éducation publique.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Cette triste nouvelle pour commencer. Pape Diouf est décédé à l'âge de 68 ans à Dakar au Sénégal, atteint par le Covid-19. L'ancien président de l'Olympique de Marseille avait été hospitalisé dans la capitale sénégalaise et il était sous assistance respiratoire. Il devait être rapatrié de Dakar à Nice dans le sud-est de la France en avion sanitaire. Son état s'est dégradé et Pape Diouf est mort, devenant la première victime du coronavirus au Sénégal. Qui est-il? Bagassi Koura nous dresse son portrait.
Ancien journaliste dans les années 80, agent de joueurs puis dirigeant de l'OM de 2005 à 2009, Diouf avait notamment contribué à bâtir l'équipe championne de France 2010 après 17 années sans titre pour l'OM. Né au Tchad, Pape Diouf est arrivé en France et à Marseille à l'âge de 18 ans. Diouf a été un agent de joueurs, notamment du Camerounais Joseph-Antoine Bell, de Marcel Desailly, Basile Boli, William Gallas, Samir Nasri ou même Didier Drogba. C'est en 2004 que Pape Diouf a pris les rênes de l'OM avant d'être officiellement nommé en 2005. Mais en 2009, Robert-Louis Dreyfus le démet. Il sera ensuite nommé président délégué un an plus tard, déplorant être le seul président noir d'un club européen. Ces dernières années, il était devenu un conférencier très sollicité, partageant sa vie entre Dakar et la France. Pape Diouf est connu pour son franc-parler. Il n'avait pas non plus hésité à se lancer en politique. En 2014, il fut candidat au municipal de Marseille.
Les réactions se multiplient après l'annonce du décès du Pape Diouf. Le président sénégalais Macky Sall a salué une grande figure du sport et une éminence grise du football. Pape Diouf était un homme exceptionnel et son parcours le prouve. Il restera une gloire de notre sport et une fierté pour l'Afrique, a écrit Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football. Jacques-Henri Hérault, l'actuel président de l'OM, a salué le parcours exceptionnel d'un gamin passé par le Sénégal avant d'arriver à 18 ans à Marseille et d'y gravir les échelons. Pape a été un grand président, a écrit Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. De nombreux joueurs et anciens poulains lui ont aussi adressé un ultime coup de chapeau. « Tu étais le meilleur d'entre nous et un modèle pour moi », a tweeté Mamadou Niang, buteur du dernier OM champion de France. « Il m'appelait fils, je l'appelais père, il a été mon agent, mon président, mais avant tout un homme exceptionnel pour moi, a lancé Habib Bey. La dignité, l'élégance, l'éloquence personnifiée, a réagi Frédéric Kanouté. Mon papa, grand-père et mentor, a tweeté André Ayou. Il laissera un souvenir unique à Marseille, a écrit une star de l'OM d'aujourd'hui, le français Florian Thauvin.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diop, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le Sénégal a enregistré son premier décès lié au coronavirus en la personne de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. La disparition de cette figure très appréciée du grand public plonge les Sénégalais entre tristesse et prise de conscience sur la dangerosité du Covid-19. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
De Pape Diouf, la majorité des Sénégalais retient un homme qui a su se frayer un chemin dans un univers où peu de Noirs ont jusqu'alors évolué. Pour Mamatar Seck, Pape Diouf est un exemple pour tout jeune Sénégalais et Africain.
C'est une référence, c'est quelqu'un qui est parti de... Je dirais pas qu'il est parti de rien, mais il est parti à niveau 1. Il a atteint le sommet. Voilà, dans là où il excellait vraiment, qui est le monde sportif, qui est un monde de prédateurs. Il a su s'imposer. D'un genre de joueur, de manager, jusqu'à devenir un président de club. Là, c'est pas du tout facile pour un Africain. Si c'est pas une première, je pense que ça fait partie des premières aussi.
Au-delà des jeunes qui le considèrent comme leur idole, Pape Diouf était également très apprécié par les autres franges de la population. Pape Sogui Diarra, commandant de gendarmerie à la retraite, estime que c'est une perte qui a touché chaque Sénégalais.
Quand il y a mort d'homme, vraiment, on ressent ça du plus profond, d'autant plus que ça concerne une personne emblématique qui est Pape Diouf, que j'ai connu à travers le football. Je pense que hier, à 19h, entre 19h et 20h, vraiment tout le monde était touché et tout le monde était choqué. Mais ainsi va la vie. En Dieu nous venons et en Dieu nous retournons. Donc on va vraiment essayer d'accepter ce qui est arrivé à Pape Diouf et d'essayer d'en tirer les considérations.
Des considérations et des conclusions qui doivent permettre aux Sénégalais de prendre conscience du danger que représente le Covid-19. Le décès de Pape Diouf sonne déjà comme une piqûre de rappel pour les plus sceptiques, d'après Hassan Djiba.
Ça va plus nous motiver davantage à nous préserver contre le coronavirus. Car le coronavirus est une maladie vraiment mortelle. Il y a des gens qui croient que ce sont des blagues ou bien qui prennent ça comme des intox, mais ce ne sont pas des intox, ce sont des choses véridiques qui sont réelles.
Beaucoup de Sénégalais sont peinés par la disparition de Pape Diouf, une figure emblématique du sport mondial. Certains pensent que le fait qu'une personnalité comme lui soit le premier décès lié au Covid-19 va pousser les Sénégalais à faire plus attention et davantage prendre au sérieux cette pandémie qui frappe durement le monde. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Guinée, le nombre de cas positifs au coronavirus passe ce mercredi à 30. Le pays enregistre 8 nouveaux cas en 2 jours. Pour stopper la propagation du Covid-19, le président Alpha Condé a décrété le 27 mars l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 30 jours. Mais sur le terrain, certaines mesures peinent à être appliquées. Voici la correspondance à Conakry de Zakaria Kamara.
En plus des gestes barrières qu'elle recommande, les autorités guinéennes ont interdit tout mouvement entre Conakry et le reste du pays. Au deuxième jour d'isolement de la capitale, la gare routière de Bambeto présente un tout autre décor. Au milieu de plusieurs véhicules de transport, les rares passagers et chauffeurs de taxi semblent prendre leur mal en patience.
Depuis 7 heures, je suis là. On est à 9 heures comme ça. J'ai demandé le chauffeur, il m'a dit qu'il n'y a pas voyage. Il y en a voiture, mais personne ne peut pas voyager jusqu'au 15 jours.
On ne va nulle part. On ne fait rien. Il n'y a pas où aller. Nous avons le véhicule, neuf places. Si c'est six places, tu peux prendre ton véhicule, sortir, chercher un peu. Mais si c'est neuf places, tu es à garer. Jusqu'à que le confinement est fini, on nous libère.
Le gouvernement guinéen interdit tout rassemblement de plus de 20 personnes. les lieux publics, écoles, bars, salles de jeux, de spectacles et de cinéma, ou encore les lieux de culte sont fermés pour une durée de 14 jours. Mais dans certains quartiers, la distanciation est loin d'être une réalité, comme le témoigne ces Guinéens rencontrés dans la banlieue de Conakry.
J'habite dans la cité de l'air. À propos de cette maladie, vraiment là-bas, on ne prend pas ça au sérieux. On ne se protège pas, on ne se lave pas les mains. Et puis il y a d'autres qui considèrent ça comme c'est de la politique. Donc vraiment, c'est de chercher des personnes pour sensibiliser. Là où les gens n'ont pas cru que la maladie là existe, ils ne peuvent pas considérer la distance ou de laver les mains, non. Il y a plein d'illettrés. Vraiment, s'il y avait des personnes à sensibiliser, c'est la meilleure solution.
C'est vrai, dans les églises, dans les mosquées, les fidèles n'y fréquentent pas, mais il faut cependant souligner, quand même dans certains lieux de loisirs, notamment dans les maquis, les cabarets, ces cabarets ne désemplissent pas. Hein. Chaque fois, je vois des gens un peu partout. Je vois des gens quand même qui sont assis côte à côte en train de prendre la bière.
Le nombre de places dans les taxis est limité. Un couvre-feu est instauré dans la capitale de 21h à 5h du matin. Des mesures qui s'ajoutent à la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Parmi les 30 cas confirmés, il y a le ministre guinéen des Travaux publics et la présidente du Conseil économique et social. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Une opération de retrait volontaire des enfants de la rue à Yaoundé pour les protéger de la propagation du Covid-19. Sous l'égide du ministère des Affaires sociales, 88 enfants ont intégré des centres où ils vont séjourner pendant 3 mois. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Plus de 80 enfants de la rue, âgés de 7 à 17 ans, qui erraient au centre commercial de Yaoundé, ont regagné 3 centres d'écoute et de transit dès ce mercredi. Ils sont les premiers bénéficiaires du projet pilote de prise en charge et d'observation des enfants de la rue au moment où la pandémie du Covid-19 sévit au Cameroun. À leur arrivée dans les centres sociaux, lavage des mains au savon et à l'eau courante, prise de température au thermoflash, réception des masques de protection sous le contrôle des forces de l'ordre postées à l'entrée des sites. Pour ce premier jour, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, est sur place.
Nous allons être avec vous tous les jours pendant 3 mois pour qu'au sortir de là, vous ayez quelque chose à faire dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur, il faut être sérieux dans ce que vous allez faire.
Des stands de cliniques médicales pour les premiers examens ont été mis sur pied dans les différents centres qui accueillent ces enfants de la rue, comme l'explique ce personnel du ministère des Affaires sociales.
Après qu'ils aient été testés du coronavirus par le thermoflash, là nous allons procéder à l'examen physique afin d'identifier différentes pathologies.
Amadou et Abdoulaye sont 2 enfants de la rue bénéficiaires de cette opération qui vise également à les resocialiser.
Je vivais à poste comme les affaires sociales nous appliquent, ça va.
J'ai envie d'apprendre d'avoir un métier, j'ai envie d'apprendre à conduire pour quitter la rue.
Adalbert Atangana est le directeur du centre de coute et de transit de Yaoundé, situé au lieu dit rue Cépère. Il pense que le premier objectif de cette opération est atteint.
On les encadre, on va les écouter. L'objectif était de susciter en eux l'envie d'être partis de la rue.
Pour mener l'opération de retrait volontaire des enfants de la rue, en vue de réduire leur exposition à la pandémie du nouveau coronavirus, le ministère de la Santé publique a travaillé avec Alain Otto, un ancien enfant de la rue, aujourd'hui reconverti.
On a fait comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on va vous faire du mal. Ici, ils seront en sécurité.
Le Cameroun a dépassé le 31 mars le seuil de 200 personnes testées positives au Covid-19. Le ministère de la Santé publique recommande de plus en plus aux populations de rester chez elles et à se protéger avec des masques dans les lieux publics. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La République démocratique du Congo compte plus de 100 cas de coronavirus pour 8 décès depuis le 10 mars dernier, Après le report du confinement total de Kinshasa qui devait commencer samedi dernier, plusieurs mesures ont été prises, dont la limitation du nombre de passagers dans les transports collectifs et le maintien d'une distance de plus d'un mètre entre les personnes. Des secteurs comme le transport et le petit commerce ressentent l'interdiction de vendre des produits importés de Chine et d'Europe. Explication Jacques Aristide.
Appliquer la distanciation sociale pour enrayer la propagation du coronavirus est un véritable défi dans la capitale congolaise où la majorité des quelques 12 millions d'habitants vivent au jour le jour sans eau ni électricité. Le gouvernement a récemment annoncé la fermeture de bars et de cafés pour empêcher les grands rassemblements. Les autorités ont également demandé aux chauffeurs commerciaux de réduire le nombre de passagers dans leurs minibus de 15 à 10 et les berlines taxis ne peuvent pas transporter plus de 3 passagers au lieu des 5 ou 6 auparavant. Le chef de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a également conseillé aux passagers de ne pas se parler pendant le trajet. Collé, un chauffeur de minibus est déterminé à limiter à 10 le nombre de passagers dans son véhicule.
Les restrictions introduites par le chef de l'État pour se protéger contre le coronavirus sont bonnes, mais ce qui nous met en colère, c'est le prix du carburant qui n'a pas changé. Il nous demande de réduire le nombre de passagers dans nos taxis, c'est bien, mais il doit nous aider en baissant le prix du carburant. Que nous puissions respirer un peu, car maintenant, nous prenons que 10 personnes.
Certains Kinois doivent maintenant attendre pendant 10 heures pour avoir un moyen de transport, comme Zizouf, un fonctionnaire.
Jouez vous-même l'égalité. Comme les gens, chaque matin, se précipitent pour entrer et les gens se confinent.
Le motocycliste André insiste pour que ses passagers s'assoient à un mètre de lui en se perchant sur le bord du siège.
Bon, en tout cas, dis-moi ça, Nada protégé.
En tout cas, je pense que la décision du chef de l'État nous protège. Quand je prends un client, une seule personne, je lui dis d'aller très loin à l'autre bout du taxi et de ne pas me toucher à une distance d'un mètre. Parce que nous devons respecter la décision du chef de l'État qui est aussi bonne pour notre propre protection.
Les petits commerçants sont parmi les plus touchés. Maman Tumba travaille au marché Lumumba.
Les prix étaient différents avant que cette maladie n'arrive. Un sac de semoule coûtait 27 000. Et aujourd'hui, nous l'achetons à 40 000. C'est la faim qui nous tuera, pas le virus. C'était possible.
Nadine Lunadio, elle, vend des vêtements importés.
Nous sommes venus au marché comme d'habitude pour vendre notre marchandise, mais on nous a interdit de disposer de notre marchandise. L'administrateur du marché est venu nous dire que, comme nos vêtements venaient d'Europe, ils risquaient d'être contaminés par le virus. Nous vivons au jour le jour, ce qui veut dire que si je ne vends pas, je ne vis pas. Nous devons payer le loyer, la nourriture, les factures médicales avec notre commerce. Qu'allons-nous faire?
Les malheurs des commerçants ont également eu un effet sur d'autres négociants comme Richard Mamboua qui vend de la viande au même marché Lumumba.
Nous avions beaucoup de clients, mais l'interdiction de vendre des marchandises nous affecte aussi. Les commerçants étaient certains de nos clients, mais maintenant, ils ne vendent plus. Leur nombre de clients a diminué. Le cercle se rétrécit et nous avons moins d'acheteurs. Nous devons donc baisser les prix pour attirer plus de clients.
Les dirigeants africains appellent un plan de relance de 100 milliards de dollars, incluant une suspension des paiements du service de la dette pour aider le continent à combattre le coronavirus.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est
la fin de cette édition. À la mise en onde de Lionel Kaïma avec Georges Léonard Sagnot, Michel Joseph et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h/24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Ouagadougou sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, Enfani FM. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.